m'a demandé de revenir un instant sur la question des 3 degrés de vie. Pourquoi ? Je comprends. Il avait parfaitement raison de poser la question. Parce que je crois que c'est très important. Mais quand j'expose ça à des psychanalystes, parce que c'est bon, toujours il y a les psychanalystes et les philosophes, il y a toujours des dialogues. Je comprends très bien, du reste. Et ça les intéresse toujours beaucoup. C'est pas étonnant. Parce que il faut situer le psychisme. Ce qu'on appelle le psychisme. Et c'est pas si commode que ça. Allez. Le psychisme profond, enraciné dans l'instinct sexuel, ou dans l'instinct encore plus profond pour moi, de tu boire et tu manger. Parce que c'est la vie individuelle. On est plus lié à notre vie individuelle qu'à la vie d'autre, forcément. Ça ne peut pas être autrement. Elle est comme naturelle à nous, celle-là. Alors, après avoir induit l'âme, induction, vous voyez, c'est-à-dire passer du visible à l'invisible, en gros, c'est ça l'induction. Platon est le premier philosophe qui a posé une induction. Mais le Platon, au moment où on l'a critiqué, parce que dans la vie de Platon, il y a d'abord Platon par rapport à Aristote, par rapport à Socrate, disciple de Socrate, apologète de Socrate, Platon qui développe sa propre philosophie. Ça, c'est le grand élan de Platon. Ça se termine avec la République. Et puis ensuite, Platon, son autocritique. Et peut-être que ce Platon autocritique, c'est la présence d'Aristote auprès de lui. On ne le dit pas trop parce qu'on n'aime pas dire ça. Mais j'en suis persuadé, moi. Pour mettre le jeune Aristote, vous comprenez ? Quand même pas. Non, c'est symbolique. Le jeune Aristote, c'est celui qui arrive. Les Grecs étaient très sensibles aux jeunes. Et là-dessus, ils disent exactement la même chose entre Saint-Benoît et les Grecs. C'est curieux, hein. Saint-Benoît dit que l'abbé doit toujours être attentif aux jeunes qui viennent. Et leur réaction. Parce qu'ils ont un regard doux. C'est très beau, tu vois, ça. Je trouve que ça montre l'ouverture de Saint-Benoît. Et Platon était sûrement très sensible aux jeunes. Parmi ces jeunes qui arrivaient, il y avait le jeune Aristote. Ça correspond à peu près dans, pour les années. Et Aristote n'a jamais accepté que l'âme humaine puisse avoir, avant d'être unie au corps, une vie contemplative auprès des dieux. Donc, on connaît déjà tout. On n'a pas besoin d'apprendre, mais il faut se rappeler. C'est le fameux problème de la réminiscence. Aristote n'a jamais accepté la réminiscence. Pour lui, on apprend progressivement par l'expérience. C'est l'expérience qui nous éduque. Ou bien, il y a un maître qui nous éduque, lui qui a plus d'expérience, et qui nous continue de nous aider par son expérience aussi. Un aîné, si vous voulez. Parce que c'est ça. Éduquer, c'est l'aîné qui a plus d'expérience et qui aide. Ne prenez pas ce chemin-là, ça ne conduit à rien du tout. Alors si on a affaire à quelqu'un qui a une tête un peu dure, il dit, oh, pas, attends, moi je vais le faire. Tiens, fais-le, tu verras. Puis il revient au bout d'un certain temps, tu vois. C'est comme ça l'éducation, hein, surtout aujourd'hui. Il ne faut pas affirmer trop vite. Il faut laisser. Et on indique. Au point de vue de la vie d'intelligence, c'est comme ça. Il y a des fausses pistes. On perd du temps. Énormément de temps. Je me souviens comme ça à Fribourg, un étudiant qui, depuis 6 ans, faisait une thèse de chimie. Alors je dis, mais tu es sur une fausse piste. respiration, faire de la gymnastique, respirer, essayer de comprendre un ordre parmi ces diverses opérations. Et donc, c'est d'essayer de voir celle qui est le plus proche de l'âme, celle qui, d'une certaine manière, sont les plus facilement libérées du corps, étant donné que l'âme est source et qu'elle est comme la substance du vivant. Le corps est relatif à l'âme. Mon corps est tout entier relatif à l'âme. Il est déterminé par mon âme. C'est mon âme qui détermine mon corps. Je peux donc essayer, en mettant, et ce serait très intéressant à faire, ça serait facile à faire, mettez toutes les expériences de la journée, hein, en commençant par le fait de se réveiller, c'est quand même la première expérience. Dormir, se réveiller, puis après manger. Normalement, on est réveillé quand on mange. Aujourd'hui, on peut nourrir quelqu'un sans qu'il se réveille. C'est un progrès. Penser, prier, de deux paix, n'est-ce pas ? Puis aimer, ainsi de suite. Et vous pouvez regarder celle qui est la plus proche de l'âme spirituelle. C'est-à-dire celle qui est parmi les diverses opérations vitales, celle qui peut le mieux se comprendre sans une référence immédiate au corps. Il y a toute une série d'opérations vitales qui sont liées au corps. Dormir et réveiller, le corps est présent, ça, c'est évident. C'est le corps qui se réveille, hein, et c'est le corps qui dort. Un corps vivant dort, l'âme se repose. Vous n'avez qu'à penser les difficultés que vous avez quelquefois à vous endormir. Ça existe, il y a des gens qui ont beaucoup de peine à dormir. Il y en a qui, grâce à Dieu, dès qu'ils se couchent 2 minutes sur le lit, pff, ils ronflent. L'âme est partie à toute vitesse. Tandis qu'il y en a au contraire qui cherchent des gens un peu tendus, vous savez, c'est le signe de l'intention. Quand on y permet, il faut faire grande attention. Un novice qui commence à ne plus dormir, une nuit, il doit avertir tout de suite le permettre. J'ai pas dormi cette nuit, je sais pas ce qu'il y a. J'ai cherché, je me suis énervé, j'ai agité. Promenez-vous la journée. Essayez de vous détendre. Bon, très bien. Puis le lendemain, j'ai pas dormi encore. Alors quand ça arrive 3 jours, ça devient dangereux. On commence un peu à perdre pédale. C'est un peu moins bien. Parce que normalement, ça dormait sur pied. C'est vrai, c'est le signe, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le corps qui dort. C'est à cause du corps que nous dormons. Ce n'est pas à cause de notre âme. Notre âme se fatigue par le corps. Donc, ça, c'est des opérations qui sont tout à fait premières. Manger, ah, là aussi le corps. Penser, ah non. C'est différent. Penser, et bon, prier, ah, là aussi. Aimer, ça dépend. Ah, aimer, ça dépend. Je peux avoir un amour passionnel. Je peux distinguer facilement un amour passionnel. J'aime follement le chocolat. Ça arrive. De sorte que la résolution la plus forte pour le carême, je ne prendrai pas de chocolat. Et le jour de Pâques, ou alors ? C'est la fête au chocolat. C'est très très curieux. Vous voyez tout de suite qu'il y a des passions. Les passions sont liées au corps. Oui, c'est sensible. Et la sensibilité est liée au corps, mais c'est pas lié au corps de la même manière que manger. Pas la même chose. Vous avez donc déjà ici 3 numéros. faire. C'est pareil. D'une certaine manière, quand je pense fortement, quand j'essaie de réfléchir au plan du philosophique, mon corps peut me gêner si j'ai mal à l'estomac. Si j'ai le mal de tête. Si je suis très fatigué. À partir d'une certaine heure. On aurait dû mettre un coup à 11h du soir. J'aurais tout de suite vu, n'est-ce pas, ceux qui sont plus ou moins libérés de leur corps. À 11h du soir. En se levant normalement à une heure comme maintenant. À partir d'une certaine heure. Une zone qui est au-delà du corps. Le corps n'intervient plus directement. Et ici, lorsqu'il s'agit de la passion, lorsqu'il s'agit de nos sensations, voir, toucher tous nos sens, c'est une zone intermédiaire. Quand il y a deux zones extrêmes, il y a une zone intermédiaire, tout simplement. La zone intermédiaire, c'est degrés de vie. C'est pas si bête. Et alors Aristote a creusé ça d'une façon étonnante et Thomas d'Aquin a suivi Aristote et n'a rien dit de plus. Tellement il a trouvé ça intelligent. C'est que, puisqu'il s'agit d'opérations vitales, les opérations vitales, si je les analyse, elles ont un objet qui les détermine. Prenez tout simplement la vision. Opération vitale. Elle a un objet qui détermine la couleur. C'est l'objet de la vision. Et la lumière. Plus rien. je vois le conditionnement et le côté spécification. Et vous voyez ça tout de suite dans la vue. Autre chose est voir une tache rouge sur un mur. Autre chose est voir un grand mur rouge. Et pourtant, c'est toujours le rouge que vous voyez. Mais le conditionnement a changé. Ça, c'est très important de distinguer tout de suite les deux. Donc, quand vous analysez des opérations vitales, vous précisez leur objet. Opération de la vision, mettez maintenant la pensée. Pensez quelque chose. Le cogito Descartes. Je cogite. Cogiter. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi? Quand vous voulez penser, je pense à moi. On n'ose pas le dire, mais c'est quelquefois arrivé, c'est pas. Je pense à moi. Je pense à moi. Je pense à moi, je suis un pauvre type, personne ne pense à moi. Alors je me rattrape. Ça m'est arrivé, ça a une réaction comme ça, affective. Et c'est vrai ça. Quand il y a beaucoup de monde qui pense à vous, vous ne pensez pas à vous. Et quand personne ne pense à vous, je suis dans mon trou. Quand vous travaillez et que beaucoup de monde vous regarde, oh, c'est merveilleux comme il travaille. Alors vous ne repensez absolument pas à vous, vous êtes tout entier à votre travail le mieux possible, parce que tout le monde vous regarde. Personne ne vous regarde. Alors pensez à vous. Cogito. Descartes ne dit pas « je cogite, je pense à Dieu ». Non, cogito. Donc je pense à moi. Il n'y a pas d'objet. Donc c'est lui. L'avantage de moi-même, c'est que je ne me quitte pas. Donc je peux toujours penser à moi. C'est l'ami le plus fidèle. Je pense toujours à moi. Je peux toujours penser à moi. Donc le moi qui spécifie le cogito, le moi, il n'est pas sensible. Il n'est pas vraiment sensible. Il est quoi quand je dis je pense à moi? Quand vous dites je pense à moi, et à quoi? Quoi à vous? Ah, je pense à mes connaissances philosophiques. Ça peut arriver. Je pense à moi qui pense, qui fait de la philosophie. Je fais de la philo. Je fais des mathématiques. J'essaie d'apprendre les sciences. Tout ça touche quelque chose d'universel. Au-delà de la quantité. Tandis qu'au contraire, lorsque je mange, je suis dépendant du beefsteak. Pas la même chose de manger un beefsteak que de manger de la purée de pommes de terre. Tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai fait un bon repas. J'ai bien mangé. Au contraire, je vais dire, qui est déjà très différent. La lumière. sens les diverses opérations vitales qui sont en moi, que je vois qu'il y a deux faits, trois manières d'être liées à la matière. Ces opérations vitales qui, comme telles, la vie est au-dessus de la matière. Trois manières de m'élever au-dessus de la matière. En l'assimilant. N'est-ce pas ? Quand vous assimilez quelque chose, c'est une manière d'être victorieux de la matière. Je suis victorieux de ce beefsteak, je le mange. C'est une histoire de faire que ce beefsteak n'est plus extérieur à moi. Je le mange. Donc je suis victorieux de la matière. Vous oubliez ça à chaque fois que vous mangez un beefsteak. C'est une victoire. De la matière en voyant, en regardant. La vue, on peut voir très loin, très loin. Vous voyez des étoiles, ils sont très loin. Vous êtes victorieux de la distance. Et c'est vrai. Dès que je connais, dès que je vois, c'est moi, je suis présent à cela. Je suis présent aux étoiles que je vois. Uniquement les voyant. Une présence lointaine, mais quand même. Je suis présent. C'est mon horizon. Et puis, le dépassement plénier, quand je connais quelque chose qui est universel, l'homme, l'animal, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui est au-delà de la matière. La matière n'intervient plus. J'ai abstrait. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas toujours... trois degrés de vie reposent tout simplement sur les trois victoires de la vie sur la matière. Les trois niveaux de victoire. À ce point de vue-là, c'est très beau et très intéressant. Parce que ça montre bien que la vie, les opérations vitales, se réalisent toujours dans une certaine lutte. Il y a toujours une certaine victoire. C'est pour ça qu'on est heureux de voir. On est heureux de toucher une certaine victoire. On est heureux de manger. Qu'est-ce que c'est de voir ? science biologique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie de manière très approfondie l'organisation du corps humain. Toutes les tout ce que représente les différents aspects de la respiration, de la nutrition, de la croissance, de la procréation. Et alors là, les progrès de la science biologique sont étonnants. Et le philosophe s'intéresse à ça. Mais il s'intéresse non pas du tout comme le biologiste. Le biologiste lui étudie ces choses-là pour elle-même. Le philosophe les étudie par rapport à l'homme. C'est toujours la dimension de l'homme qui est présente à ces diverses opérations de la vie végétative. Et il considère la vie végétative comme très importante, puisque c'est les fondations. C'est les fondations. Alors quand les fondations commencent à branler, ça va plus du tout. Il y a des répercussions jusqu'à la tête. Des tremblements de terre. Mais c'est les fondations. Donc, c'est pas très original. Respirer. Tout animal respire. Et évidemment, il respire différemment. Le poisson ne respire pas de la même façon que l'homme. L'homme a sa respiration propre. Les différentes parties des animaux. Un traité d'Aristote qui est très intéressant. Ceux qui connaissent un peu de science biologique doivent lire le traité des animaux d'Aristote, parce que il y a des choses très qui paraissent très enfantines et pas du tout. C'est très qualitatif. Et là on voit bien les différentes manières d'aborder un sujet au niveau philosophique ou au niveau scientifique. C'est extrêmement intéressant de voir comment Aristote traite de la respiration. C'est vital. On respire. Et bien respirer, c'est très bon. C'est très très utile. Il y a des gens qui on leur a jamais appris à respirer. Alors évidemment, instinctivement, on se met à respirer. Mais quelquefois, on aurait besoin d'un petit coup de pouce pour mieux respirer, pour mieux développer sa poitrine. Parce qu'on l'a laissé pousser tout naturellement. C'est quelquefois beaucoup mieux, remarquez. C'est plus original, au moins. La respiration, la nutrition, on se nourrit. Et c'est la première éducation, c'est curieux. La première éducation porte sur la nutrition. Parce que il faut se nourrir, non pas tout le temps, mais il faut se nourrir d'une façon réglée. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, c'est curieux, vous, Européens, vous avez faim quand vous regardez votre montre. Les turcesses, ils diraient des grâces. Hein, vous verriez les têtes. Alors, pour Saint-Dominique, il y a eu cette histoire. C'est que les frères n'avaient rien pris. Saint-Dominique a dit, sonnez. Frustration.